écoutez RFI, 6h à Conakry, 8h à Paris, 9h à Beyrouth.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Nathalie Amar, bonjour à tous.
Dans ce journal, les mêmes scènes de panique une nouvelle fois hier au Liban.
Après les beepers, ce sont des talkie-walkie utilisés par le Hezbollah qui ont explosé. Il y a au moins 20 morts. Israël est de nouveau pointé du doigt. Vous entendrez l'indignation mais aussi l'inquiétude des Libanais. La question sur toutes les lèvres, quelle est la prochaine étape et quelle peut être la riposte désormais du Hezbollah. Dans ce journal aussi, l'arrestation de Claude Pivi, condamné à perpétuité en son absence lors du procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Les associations de victimes se disent soulagées, vous l'entendrez. Aux États-Unis, la Fed abaisse ses taux et cela fait plutôt les affaires de Kamala Harris. Deux personnes décédées au cours d'une opération de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Et puis Emilia Pérez, le pari fou de Jacques Audiard, comédie musicale sur une femme trans, chef de cartel mexicain. Le film a été choisi pour représenter la France aux Oscars.
Une trentaine de morts, plus de 3000 blessés en l'espace de 2 jours au Liban.
Après l'attaque au beeper piégé mardi, ce sont donc des talkie-walkie utilisés par le Hezbollah libanais qui ont explosé hier. Une nouvelle fois, Israël, pointé du doigt, ne revendique pas l'attaque qui menace de faire basculer désormais le conflit en cours entre le Hezbollah et Israël. En guerre ouverte, la population libanaise est-elle sidérée ? Mais unis, ce qui est rare, dans un même sentiment d'indignation. Reportage à Beyrouth de Laure Stéphan.
Devant l'hôpital universitaire Montliban, en lisière de Beyrouth, des familles attendent des nouvelles de leurs proches blessés dans l'attaque de mardi. Des femmes ont les yeux rougis. Une 60aine de patients, pour la plupart membres du Hezbollah, sont hospitalisés. Docteur Eli Ralios, directeur médical.
Beaucoup d'atteintes sont au niveau des yeux. Et un œil, quand il est vraiment blessé, quand il est traumatisé, il est difficilement récupérable. C'est ignoble, c'est ce qui se passe. Inacceptable. Avec la spirale de violence à laquelle on assiste, on se demande bien quelle est la prochaine étape. C'est inacceptable.
Les attaques des 2 derniers jours ont provoqué un afflux massif de blessés vers les hôpitaux. Des Libanais répondent présents pour donner leur sang, dit Mahawad.
Nous devons être les uns à côté des autres. Laisser la politique de côté. Considérer l'humain. Laisser de côté nos différends. Si nous ne sommes pas solidaires entre nous, de qui attendre cette solidarité? Je ne suis pas médecin, je suis juste une personne. Le minimum que je puisse faire est de donner mon sang. Quand j'ai appris les attaques, j'ai été stupéfaite. C'est une guerre électronique et dangereuse.
Les attaques ravivent le sentiment de vulnérabilité parmi les Libanais, diffus depuis le début de la guerre à Gaza et des affrontements à la frontière libano-israélienne liés à ce conflit. Laure Stéphan, Beyrouth, RFI.
Un conflit qui va entrer dans une nouvelle phase, c'est ce qu'a déclaré hier Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense. Il annonce que des soldats et des ressources vont être transférés vers le front nord et la frontière libanaise. Bonjour Paul Khalife.
Bonjour Jeanne, bonjour tout le monde.
Vous êtes à Beyrouth. Paul, on entendait à l'instant la sidération des Libanais et s'installe aussi une forme de psychose. 2 attaques de grande ampleur en 2 jours. Celle d'hier a d'ailleurs été plus meurtrière que celle de la veille.
Oui, les explosions de mercredi étaient plus puissantes que celles de mardi. Elles ont d'ailleurs provoqué des dégâts beaucoup plus importants. Les images montrent des appartements dévastés, des voitures calcinées, des motos pulvérisées. Cela s'explique par le fait que les talkie-walkie qui ont explosé sont plus volumineux que les beepers. Donc forcément, ils disposent d'une batterie plus massive et peuvent contenir une plus grande quantité d'explosifs. Cette deuxième vague d'explosion a provoqué une psychose chez la population. Une psychose amplifiée par les rumeurs infondées sur l'explosion de panneaux solaires, de batteries au lithium ou même d'ordinateurs portables. On a vu des civils se débarrasser dans les décharges de leurs talkie-walkie et autres moyens de communication.
Alors comment communiquer désormais? C'est justement la question qui se pose pour le Hezbollah, le mouvement chiite libanais, Paul, dont de très nombreux membres ont été blessés ces 2 derniers jours.
Oui, ces pertes humaines sont importantes. Les sources médicales affirment que 90% des blessés sont atteints aux yeux et aux mains. Beaucoup ont perdu la vue ou l'usage d'un œil. D'autres ont été amputés de plusieurs doigts. Des centaines de membres du Hezbollah sont définitivement hors combat ou immobilisés pour un certain temps. Le système de communication qui permet au Hezbollah d'avoir une maîtrise totale de la chaîne de commandement et de contrôle est durement affecté. Ces 2 vagues d'explosion ont sans conteste provoqué une forte désorganisation du parti et affecté le moral de ses troupes. Reste à savoir si la volonté de combattre reste intacte. On le saura ce soir avec le discours de Hassan Nasrallah.
Un discours prévu à 14h, temps universel. Merci beaucoup Paul Khalife, en direct avec nous de Beyrouth. À noter que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain sur ces événements au Liban. L'ONU, ou l'Assemblée générale, a adopté hier, comme attendu, une résolution qui réclame la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens dans les 12 mois. Résolution qualifiée de biaisée et pleine de cynisme par Israël.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
En Guinée, il avait été condamné à perpétuité lors du procès du massacre du 28 septembre 2009. Claude Pivi, arrêté au Libéria.
Une arrestation près de la frontière avec la Guinée forestière. Depuis son évasion de la prison de Conakry en novembre 2023, il était l'homme le plus recherché du pays et une figure redoutée. Son arrestation provoque d'ailleurs de nombreuses réactions, notamment du côté des associations. Écoutez, Asmaou Diallo, elle préside l'AVIPA, l'association des victimes des parents du 28 septembre.
En tout cas, c'est un ouf de soulagement pour toutes les victimes parce qu'on avait vraiment peur. Hein. On se demandait où est-ce qu'il est. À son évasion, nous, on était vraiment inquiets. On se demandait comment ça allait se passer avec le procès. Est-ce qu'il n'allait pas préparer un autre coup pour faire évader les autres? Mais heureusement, voilà, on a mis main sur lui. C'est quelque chose de très important pour les victimes et pour moi personnellement parce que là, on voit qu'il y a des choses sérieuses qui sont là. Donc, c'est important, c'est très important. Il faudrait qu'il soit extradé pour qu'il puisse purger sa peine en Guinée, ici, à la maison centrale, comme les autres. On n'oublie pas ce qui s'est passé le 28 septembre. Ces actions, ça reste toujours dans la tête des gens. Donc, il n'était pas vraiment question qu'il reste comme ça dans la nature, parce que ça nous inquiétait beaucoup. Mais Dieu merci, comme on le dit souvent, la vérité et le mensonge ne peuvent jamais aller ensemble. Toujours la vérité va sortir.
Asmaou Diallo, président de l'association des victimes des parents du 28 septembre, au micro de Guillaume Thibault.
Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo Ondimba sort de son silence.
Plus d'un an après avoir été renversé par un coup d'État, il a fait diffuser hier soir par ses avocats une lettre ouverte dans laquelle il appelle à la libération de son épouse Sylvia et de son fils Noureddine, incarcéré depuis un an à la prison centrale de Libreville et à, je cite, l'arrêt des violences contre eux. Lui n'est pas réapparu en public depuis son agression au couteau la semaine dernière. Le président comorien Azali Assoumani. Hier, le Conseil des ministres n'a pas eu lieu. Situation inhabituelle lorsque le président est sur le territoire. L'opposition demande plus de transparence sur son état de santé.
Aux États-Unis, c'est une première en 4 ans et cela ne plaît pas à Donald Trump.
Il accuse la Banque centrale américaine d'être politisée. La Fed, qui a baissé hier d'un demi-point de pourcentage son taux directeur, c'est plus qu'attendu. Et cela fait les affaires dans les fêtes Kamala Harris, car baisser les taux, cela veut dire que l'inflation est en voie d'être maîtrisée, alors que Donald Trump fustige régulièrement le bilan économique de Joe Biden. À Washington, Guillaume Nodin.
Un demi-point de baisse plutôt qu'un quart, c'est le choix des gouverneurs de la Fed. Il y a deux raisons à ce choix de l'option rapide. La première, selon le patron de la Banque centrale, Jerome Powell, c'est que l'inflation a ralenti et qu'elle se rapproche de l'objectif de 2% en rythme annuel, un taux considéré comme sain pour l'économie. Pas trop rapide, sans trop risquer la déflation. La deuxième, c'est que la Fed a désormais les yeux rivés sur son deuxième objectif officiel, le marché du travail, avec un taux de chômage à 4,2% et un ralentissement des créations nettes d'emplois ces derniers mois. Il est encore solide, selon Jérôme Powell, mais il commence peut-être à avoir besoin de soutien. La baisse des taux va permettre aux banques de prêter de manière plus avantageuse, de soutenir l'activité ainsi que le crédit aux Américains. Cette baisse intervient à l'occasion de la dernière réunion avant l'élection présidentielle et la candidate démocrate Kamala Harris peut espérer que l'économie et donc le bilan de l'administration sortante va en profiter. Mais le patron de la Fed explique que la décision n'a pas été prise en fonction de critères politiques. Il prévoit d'ailleurs d'autres baisses d'ici à la fin de l'année après cette élection très incertaine. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Au Venezuela, il dit avoir signé une lettre sous la contrainte. L'opposant et candidat à la présidentielle de juillet dernier, Edmundo González Urrutia, assure avoir écrit sous la contrainte cette lettre diffusée par les autorités dans laquelle il dit respecter la décision de justice validant la réélection du président Nicolas Maduro. Edmundo González Urrutia dit avoir signé pour pouvoir quitter le pays. Il a depuis trouvé l'asile politique en Espagne.
L'actualité en France et la formation du gouvernement qui se porte à des tensions.
Des tensions croissantes entre Michel Barnier, le Premier ministre, et le camp macroniste qui réclame des clarifications sur la ligne politique pour envisager de participer ou non à l'équipe gouvernementale. Principal point d'achoppement, la question du budget et de l'immigration.
Les violences se poursuivent en Nouvelle-Calédonie.
Deux personnes sont décédées au cours d'une opération de gendarmerie portant à 13 le bilan total des décès depuis le début du mois de mai. Les faits se sont déroulés au sud de Nouméa, à Saint-Louis, où la mobilisation contre le dégel du corps électoral qui a dégénéré en émeute est encore très forte. Cette réforme a depuis été suspendue par Emmanuel Macron. Les précisions de Charlotte Manvi.
Les deux victimes âgées de 24 et 31 ans se savaient recherchées et se cachaient depuis des semaines à la tribu de Saint-Louis. Elles sont soupçonnées avec une dizaine d'autres personnes d'être les auteurs des 330 tirs essuyés par les forces de l'ordre à cet endroit. Le but de ces jeunes, souvent déjà passés par la prison, est de tuer un gendarme ou de mourir, indique un haut responsable de la gendarmerie qui assure avoir multiplié les médiations coutumières et familiales pour inciter ces hommes à se rendre. Ces décès portent à 3 en 2 mois le nombre de morts à Saint-Louis lors d'opérations des forces de l'ordre. Le 10 juillet dernier, c'est leur chef présumé, Roch-Victorin Ouamitan, dit Banane, qui avait été tué par un tir de riposte entraînant un regain de tension. 10 jours plus tard, l'église de la mission de Saint-Louis, berceau du catholicisme en Calédonie, était incendiée. Charlotte Manvi, Nouméa, RFI.
Et du cinéma, Jeanne, on connaît le film qui représentera la France aux Oscars.
C'est la comédie musicale Emilia Pérez de Jacques Audiard qui a été sélectionnée par le Centre National de la Cinématographie pour candidater à la catégorie du meilleur film étranger. C'est l'Académie des Oscars qui aura ensuite évidemment le dernier mot pour les films retenus. Emilia Pérez, déjà auréolée du prix du jury au Festival de Cannes et d'un prix d'interprétation collectif pour ses 4 actrices. Isabelle Chenu.
C'est un des projets les plus originaux du cinéma français qui a été choisi pour représenter la France aux Oscars. Du cinéma d'auteur grand public signé Jacques Audiard. Une tragicomédie musicale et féministe qui raconte une histoire de transidentité dans le milieu des cartels de la drogue mexicain. Le film a été entièrement tourné et chanté en espagnol dans un Mexique reconstitué dans des studios de cinéma près de Paris avec des stars anglophones internationales comme Selena Gomez et Zoé Saldana. Dana et une actrice transmadrilène, Carla Sofia Gascón. Il raconte l'histoire d'une jeune et talentueuse avocate recrutée sous la menace, mais contre une fortune, par un terrible chef de cartel qui souhaite réaliser son rêve secret, se retirer des affaires et devenir enfin la femme qu'il a toujours été. Avant cela, il faudra simuler sa mort, mettre sa famille à l'abri, afin de lui permettre de renaître sous les traits d'une riche bienfaitrice de l'humanité, Emilia Pérez. Énergique, drôle, brutal et invraisemblable, l'ensemble est un formidable hymne aux femmes, comme en témoigne une superbe séquence finale.
Isabelle Chenu, convaincue par Emilia Pérez
oui,
de Jacques Audiard.
Merci Jeanne Bartoli, à tout à l'heure. Nous sommes le jeudi 19 septembre, c'est RFI Matin, reportage, chronique et invité dans quelques minutes en duplex du Parlement européen, la députée socialiste Chloé Ridel. On évoque avec elle le blocage politique en France, 2 semaines après la désignation de Michel Barnier et surtout le casting de la future Commission européenne. La Martinique en colère contre la vie chère, des violences dans certains quartiers de Fort-de-France, un couvre-feu nocturne en vigueur, explication avec Nicolas Feldman dans 3 minutes. Au chapitre économique, encore les difficultés d'Air Sénégal. Les finances vont mal. La compagnie renonce à desservir New York. Ce sera bientôt au tour de Milan, Barcelone, Marseille et Lyon.
C'est un mal qui était nécessaire. On est sur des routes comme celle de New York qui perdent plus de 1 million par mois en US dollars. Et elles permettront certainement de réduire la dette courante, comme on sait, qui dépasse les 5 millions par mois. Et c'est déjà un moindre mal.
Un reportage pour Afrique Économie et Charlotte Cosset avec nous dans le journal de 9h. À 9h50, on écoute le dernier album d'Émilie Loiseau. C'est le choix musical d'Edmond Sadaka. Et puis, ce rendez-vous sur l'antenne d'RFI ce soir. Youssou N'Dour en concert. Et oui, c'était pendant les Jeux Olympiques à la station Afrique aux portes de Paris. Youssou N'Dour, on va prolonger la fête donc sur RFI ce soir avec la retransmission de ce concert à 20h10, temps universel. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Nathalie.
Les JO, c'est fini. On parle football suite de la première journée de Ligue des Champions et Paris qui démarre difficilement.
Un PSG longtemps inefficace mais qui est venu finalement à bout de Gérone en toute fin de rencontre grâce à une erreur du gardien espagnol. Les Parisiens ont douté mais ils assurent l'essentiel, sourit le latéral marocain Achraf Hakimi.
Ouais, on est content. C'est bien de commencer avec les 3 points et c'est une compétition différente. C'est bien de commencer avec un victoire et j'espère continuer comme ça avec la bonne intensité et la bonne rythme. Gérone, il joue bien aussi. C'est une équipe qui l'a montré avec beaucoup de personnalité. Il a essayé de prendre le ballon à nous aussi, de faire des pressing beaucoup. C'est pour ça, la première mi-temps, c'est un peu difficile pour nous pour trouver l'espace. Je pense que la deuxième mi-temps, on a trouvé cet espace. Gérone, il a descendu un petit peu l'intensité et c'est nous, on a profité de ça et c'est pour ça qu'on a créé beaucoup plus d'opportunités.
Achraf Hakimi avec Cédric De Oliveira, Paris vainqueur de son premier match, comme Dortmund qui a dominé Bruges 3-0. Parmi les rencontres, Manchester City et l'Inter se sont neutralisés 0-0.
Et puis après le PSG et Lille, les deux autres clubs français engagés en Ligue des Champions entrent en lice ce jeudi.
Monaco, de retour en Ligue des Champions, 6 ans après sa dernière participation. Une ASM gâtée puisque le tirage au sort lui a offert une affiche face au FC Barcelone. Et puis Brest, le petit pousset de la compétition qui reçoit le Sturm Graz. Rencontre qui se jouera à Guingamp, au Roudourou, le stade habituel des Brestois n'étant pas aux normes de la C1. Une situation devant laquelle Eric Roy, l'entraîneur breton, ne peut qu'ironiser.
Bah, c'est sûr qu'on aurait préféré jouer à domicile, mais je crois que Sturm Graz va pas jouer à domicile non plus, je crois. Je crois qu'ils vont jouer sur dans notre stade. Donc c'est la problématique de ces clubs qui sont peut-être pas dimensionnés pour cette compétition. Et qui doivent trouver des alternatives. Donc, c'est sûr qu'on aurait préféré chez nous. C'est sûr qu'on a plus de repères. C'est sûr que pour nos, c'est surtout à nos supporters et les gens qui aiment le stade brestois à qui on pense. Parce que c'est vrai que tout aurait été beaucoup plus simple de pouvoir recevoir à Leblay. Maintenant, il faut faire. Comme je l'ai dit, comme c'est une compétition assez facile pour nous, on préfère jouer les 8 matchs à l'extérieur du coup. Parce qu'on trouve qu'au moins ça donne un peu d'équité à la compétition, quoi.
Voilà, l'affiche du soir aussi opposera l'Atalanta Bergame, vainqueur de la dernière Ligue Europa, à Arsenal, tandis que l'Atlético de Madrid accueillera le RB Leipzig. Une journée qui démarre à 16h45, temps universel, avec Étoile Rouge de Belgrade, Benfica et Feyenoord, Bayer Leverkusen.
Et on suit ça évidemment sur RFI. Merci Antoine, à tout à l'heure. En Martinique, un couvre-feu partiel décrété dans plusieurs quartiers de Fort-de-France de 21h à 5h du matin, alors que des violences urbaines secouent depuis plusieurs nuits l'île. Lundi soir, 6 policiers ont été blessés par des tirs, des violences qui s'inscrivent dans le contexte plus large de mobilisation contre la vie chère. Bonjour Nicolas Feldman.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
On en parle avec vous, c'est aujourd'hui l'économie. À l'origine du mouvement, il y a un collectif non violent, celui-ci qui veut agir pour le pouvoir d'achat des Martiniquais.
Oui, dans les manifestations, on les reconnaît à leurs vêtements rouges. Le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, le RPRAC, c'est le nom de ce collectif. Il a été créé au début 2023 pour protester contre la vie chère sur les réseaux sociaux. Ces militants sont très actifs dans leurs vidéos. Ils se filment à la caisse des hypermarchés et sensibilisent la population, comme ici au carrefour de Dillon. Voilà, depuis cet été, le collectif réclame une mesure, que les prix en Martinique soient alignés sur ceux de la métropole.
Car l'écart des prix, Nicolas, ne cesse de se creuser.
D'après une étude de l'INSEE parue en 2023, les produits alimentaires sont en Martinique 40% plus chers qu'en métropole. Je vous donne quelques exemples recensés sur des comparateurs de prix en ligne. Une bouteille d'1,5 litre de jus d'orange est à 2,95 € en métropole. Elle se vend près de 7 € en Martinique. Des produits 2 fois plus chers, c'est aussi le cas pour une boîte d'œufs ou pour un paquet de riz.
Alors, qu'est-ce qui explique cet écart des prix ?
Alors, tout d'abord, la Martinique est une île. Elle importe 80% de ce qu'elle consomme. Les frettes maritimes gonflent donc mécaniquement les prix. Mais le collectif dénonce aussi les marges de la grande distribution. C'est pour cela que depuis le 1er septembre, ce sont les grandes enseignes qui sont ciblées. Blocage, action coup de poing. Ce mouvement rappelle les grandes grèves de 2009. Elles avaient paralysé la Martinique et la Guadeloupe pendant 40 jours. Depuis, un dispositif a été mis en place pour modérer les prix sur des produits de première nécessité. Insuffisant, estime aujourd'hui le collectif RPRAC.
Et l'État, lui, promet de nouvelles réponses ?
La préfecture, les distributeurs se sont déjà engagés à baisser de 20% les prix sur 2500 produits. Mais une autre piste est à l'étude, celle de supprimer au moins en partie une taxe héritée de l'époque coloniale, la taxe sur l'octroi de mer. Cet impôt local prélevé sur les produits importés sert à financer les collectivités locales. La collectivité territoriale de Martinique est prête à y renoncer. Rien de décidé encore. Alors en attendant, les militants, eux, maintiennent la pression. Ils réclament plus de transparence dans les négociations. Le collectif RPRAC exige que les réunions avec la préfecture soient filmées et retransmises en direct sur les réseaux sociaux. À chaque fois, cela leur a été refusé. Ils ont donc décidé de ne pas y participer.
Nicolas Feldman pour aujourd'hui l'économie. Merci à vous. Il est 8h20 à Paris et à Strasbourg. Et notre invité est en duplex ce matin du Parlement européen. Bonjour Chloé Ridel.
Bonjour.
Députée européenne, porte-parole du Parti Socialiste. Avant d'évoquer avec vous la future Commission européenne, présentée cette semaine par Ursula von der Leyen, un mot de la France, où Michel Barnier a manifestement beaucoup de mal à former un gouvernement. Il y a du tirage entre Matignon et les députés du camp présidentiel qui font des hausses d'impôts envisagées par le Premier ministre, une ligne rouge, un obstacle à toute participation à ce gouvernement. En attendant, la France n'a toujours pas de budget pour 2025. Chloé Ridel, on aurait pu éviter ce blocage où il était finalement inscrit dans les résultats des législatives qui ne donnaient de majorité absolue à personne.
Mais moi, je pense qu'on aurait pu faire différemment, en l'occurrence, en respectant l'esprit des institutions et en nommant, pour former un gouvernement, la force arrivée en tête au soir des législatives, c'est-à-dire le nouveau Front populaire. Là, le président a voulu faire tout seul. Il a nommé une personnalité, certes respectable, qui est Michel Barnier, qui a par ailleurs mené des négociations très difficiles au cours de sa vie, mais une personnalité sortie du chapeau, sans discussion préalable avec aucune des autres force politique, ou alors voilà, et maintenant il se retrouve dans la difficulté parce que la réalité c'est que c'est un homme seul et qu'il est en train de former un gouvernement visiblement à droite toute quand on entend les noms qui sortent, que ce soit celui de Laurent Wauquiez ou de Monsieur Retailleau. Donc cela pose question puisque la réalité c'est que la LR est un groupe qui a une quarantaine de députés à l'Assemblée nationale, qui a fait autour de 5% aux dernières législatives et donc qui n'a pas la légitimité pour demain être au gouvernement de la France. Donc la situation de blocage dans laquelle on se trouve encore, alors même qu'il faut avancer sur le budget, on la doit au président de la République.
Dans les colonnes de Libération ce matin, la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, se prononce clairement contre la résolution de la France insoumise sur une destitution du chef de l'État. Alors c'est apparemment pas le cas de tous les socialistes, Chloé Ridel, puisqu'au bureau de l'Assemblée, l'EPS a accompagné cette initiative. Quelle est, vous, votre position là-dessus ?
Alors, au bureau de l'Assemblée, je corrige, le bureau de l'Assemblée enregistre ce qui est valable de conduire en séance. Et nous, ce que nous voulions, c'est qu'un débat sur le fond puisse se tenir sur cette question, parce que aujourd'hui, les sondages nous montrent que près d'une majorité de Français seraient favorables à la destitution du président de la République. Nous, Parti Socialiste, n'y sommes pas favorables, et ça, nous le répétons, nous avons déjà dit que nous voterions contre cette motion de destitution en séance. Pour autant, nous sommes des démocrates et nous souhaitions que le débat puisse se tenir et donc ne pas bloquer cette initiative au bureau de l'Assemblée nationale qui n'est juste qu'une chambre d'enregistrement qui fait l'agenda de la séance.
Dans cette situation de crise, en tout cas deux semaines après la nomination de Michel Barnier, il y a un ministre démissionnaire qui s'est retrouvé un emploi. C'est le chef de la diplomatie, Stéphane Séjourné, propulsé vice-président de la Commission européenne en charge de la prospérité et de la stratégie industrielle après le départ forcé de Thierry Breton. Comment avez-vous accueilli cette nomination ?
Mais assez mal, voyez, parce que le débarquement, la démission de Monsieur Breton, mais qui est un peu forcé, est un mauvais signal à Bruxelles, à Strasbourg, dans les institutions européennes, pour la voix de la France et le poids de la France. Parce que Monsieur Breton, même si nous ne sommes pas de la même couleur politique, de la même famille politique, est quelqu'un qui a fait des choses assez remarquables dans la dernière mandature, qui a tenu tête notamment aux grandes entreprises américaines des réseaux sociaux, à Monsieur Elon Musk avec Twitter, qui a développé des industries de vaccins au moment où on avait besoin de produire des vaccins pour le Covid, puis il a fait de même avec les industries de défense face à la guerre de Poutine en Ukraine. Donc c'est quelqu'un qui a fait des choses et qui était connu pour résister à Madame von der Leyen. Donc le fait que Madame von der Leyen le pousse à la démission n'est pas un bon signe. Et j'ajoute que le fait que le président, dans l'heure qui suive, nomme quelqu'un d'autre, en l'occurrence Monsieur Séjourné, donc une personnalité a priori beaucoup plus faible que Monsieur Breton et par ailleurs de sa couleur politique sans consulter personne, alors que depuis il y a eu des élections et que ces élections ont plutôt sanctionné la politique du président de la République, ça c'est aussi un mauvais signe pour la démocratie.
Mais le bon signe peut-être c'est que ce poste de la stratégie industrielle reste malgré tout à la France. C'est un poste crucial hein, quand on lit par exemple les conclusions du dernier rapport de Mario Draghi, hein, l'ancien président du Conseil italien, pour qui l'Europe, finalement entre des États-Unis qui innovent et une Chine qui produit, ne s'impose véritablement que sur le terrain de la réglementation. C'est un poste stratégique que celui-là.
C'est un poste stratégique, mais pour redresser notre industrie, on a besoin de l'outil commercial déjà pour mettre des droits de douane, pour éviter la concurrence déloyale. Et on a besoin, comme le dit le rapport Draghi, de l'outil budgétaire, financier. Or ça n'est pas sous le portefeuille de Monsieur Séjourné. Il faut pouvoir financer massivement les industries sur notre continent. Donc on verra ce que recouvre précisément ce portefeuille. Et surtout, si Monsieur Séjourné a le poids notamment de faire face et de tenir tête à la présidente allemande von der Leyen, l'avenir nous le dira. En tout cas, nous pensons que cette commission est une commission à droite toute, pour le dire. Il n'y a plus de commissaire au pacte vert européen, alors que c'était quand même le grand projet de la précédente mandature et jusqu'en 2040, jusqu'en 2050, jusqu'à ce qu'on devienne un continent neutre en carbone. Il n'y a plus de commissaire aux affaires sociales et vous avez l'extrême droite italienne, un commissaire de l'extrême droite italienne de Madame Meloni qui
Raphaël
devient Fito, vice-président.
Pour ne pas le nommer. Ouais.
Voilà, qui devient vice-président de la Commission européenne. Donc on a l'impression que l'extrême droite italienne est favorisée et que la France, de son côté, est dégradée.
Chloé Ridel, une quinzaine de portefeuilles pour le groupe PPE. Est-ce que ce n'est pas tout simplement le reflet de ce qui s'est passé le 9 juin, au soir des élections, la droite confortée et l'extrême droite qui progresse au sein de ce Parlement européen ?
Mais non, parce que si vous prenez les rapports au Parlement européen, les rapports de force... le groupe PPE n'est pas trois fois supérieur au groupe socialiste et démocrate. Vous me parlez de 15 commissaires PPE et il y a dans la commission proposée 4 commissaires socialistes et démocrates. Donc c'est x3. Alors que nos groupes sont à une dizaine de députés d'écart au Parlement européen. Donc c'est une chute vertigineuse pour les socialistes et démocrates dans cette commission qui reflète le rapport de force au sein du Conseil européen parmi les chefs d'État qui sont très majoritairement de droite. Ouais. Pour autant, ça n'est pas notre rôle, à nous, Parlement européen, d'entériner les rapports de force au Conseil et d'accepter, comme ça, sans rien dire. On a un rôle de contre-pouvoir et on va l'utiliser pleinement.
La nomination de plusieurs commissaires issus des Pays-Baltes, avec notamment ce nouveau venu au poste de la Défense, c'est un bon signal pour vous en pleine guerre en Ukraine. Comment l'avez-vous accueilli encore une fois ?
Oui, je pense que nous, on prône une défense européenne autonome. On pense que c'est urgent de construire sur notre continent des industries de défense, de pouvoir produire notre propre armement, de ne plus être dépendant en la matière des États-Unis ou d'autres pays d'ailleurs. Et donc, ce sera le mandat qui s'ouvre doit être un mandat ambitieux pour redresser nos industries de défense et coordonner mieux nos armées pour être capables de se défendre tout simplement.
Chloé Ridel, députée européenne, porte-parole du Parti Socialiste en duplex avec nous du Parlement de Strasbourg. Merci d'avoir été avec
nous. Merci beaucoup, bonne journée.
Bonne journée. Et dans une minute, le journal sur RFI.
Ce samedi sur RFI... Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Que s'est-il passé cette semaine sur la planète économie ? Quels sont les grands enjeux qui vont marquer les suivantes ? Dans un monde en pleine transition, Écho d'ici, écho d'ailleurs donne chaque samedi la parole aux meilleurs experts et aux acteurs de l'économie pour décrypter les problématiques internationales et les illustrer sur le terrain.
Écho d'ici, écho d'ailleurs avec la BOAD.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
santé en Haïti, comprendre la situation et écouter les soignants.
Demain,
dans notre émission Questions de femmes, soulager les maux de dos.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Parce que la vie n'a pas de prix, la chaîne de l'espoir se bat depuis plus de 25 ans pour le droit à la santé des enfants de pays défavorisés. Notre pari sur l'avenir devient une réalité. Mais il reste beaucoup à faire. Parce que les enfants sont notre avenir. Vous pouvez faire un leg ou transmettre une assurance vie à la chaîne de l'espoir. Ensemble, agissons pour que notre investissement pour la vie soit une victoire.
Demandez notre brochure sur chaînedelespoir.org ou au 01 44 12 66 80. 01 44 12 66 80. Prix d'un appel local.
Tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Une croissance infinie dans un monde fini, c'est impossible. Mais comment faire passer ce message sans que ce soit culpabilisant ou angoissant? Eh bien, en réunissant art et écologie. C'est le pari du festival Anticipation qui a lieu ce week-end à la Gaîté Lyrique à Paris.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.